La majorité des textes qui seront lus dans mon message aujourd'hui sont dans la Bible en second 21 et aussi en français courant. Alors j'ai eu à cœur aujourd'hui de vous parler d'un passage plus connu sur le nom de la transfiguration de Jésus dans Luc 9, versets 27 à 36. Qu'Annie va nous lire si elle le veut bien.
Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie apparaissant dans la gloire. Ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence et, à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu.
Vous connaissez tous ce passage, j'en suis sûr. Mais j'aimerais qu'on le regarde un petit peu plus près. Quand nous regardons donc ce passage, que voyons-nous? Que retenons-nous? Il y a Jésus. Puis il y a Pierre, Jacques et Jean. Et puis, plus surprenant, voici que Moïse et Élie les rejoignent. Et enfin, encore plus surprenant, voici une nuée qui leur parle et il s'avère que c'est Dieu. Jésus, c'est normal qu'il soit là, puisque c'est le centre des évangiles, et qu'en plus, c'est lui qui a pris ses 3 disciples et qui est à l'initiative de cette rencontre à l'écart. Pierre, Jacques et Jean, là, nous pouvons nous commencer à nous poser des questions, même si nous verrons plus en avant dans les évangiles qu'ils sont devenus des piliers incontournables. Où cela commence à se corser, c'est Moïse et Élie. Moïse n'était-il pas mort? Comme il nous est dit en Deutéronome 34, lisons ce passage sur la mort de Moïse. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, le Néguev, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Zoar. L'Éternel lui dit, voilà le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je te donnerai à ta descendance, je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, conformément à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a su où était son tombeau jusqu'à aujourd'hui. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était pas affaiblie, il n'avait pas perdu sa vigueur. Il est mort, c'est l'Éternel qui l'a enterré. Et il est là. Élie. Nous pouvons comprendre peut-être un peu plus, puisque nous savons qu'il a été élevé dans un tourbillon. On lit dans 2 Rois 2, versets 1 à 11. Dieu enlève Élie au ciel. C'est le titre de ce passage dans certaines de nos Bibles. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Bethel. Les membres de la communauté des prophètes de Bethel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit « Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté des prophètes qui vinrent se poster face à eux deux à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie n'est pas mort, il a été enlevé dans un tourbillon. Donc, on pourrait peut-être comprendre sa présence là. Troisième chose que l'on peut observer, quatrième, la nuée. La nuée était la garantie de la présence de Dieu. Paul Ettori dit à propos de la nuée. Paul Ettori est un pasteur qui est souvent sur le top chrétien, il y a des bonnes méditations de sa part. La nuée, son caractère exceptionnel. De tous les prodiges qui ont accompagné Moïse et les Hébreux, la nuée est le plus important et le plus spectaculaire. Songez à ce miracle, se déplaçant aux yeux de tous pour s'arrêter, repartir ou venir se placer au-dessus du tabernacle. Songez à ce miracle permanent qui ne cessa d'accompagner tout un peuple dans ses marches à travers le désert. La nuée, une colonne imposante au double aspect. C'est une sorte de pilier qui s'élève du sol vers le ciel. Exode 13, 21 ou psaume 78, 14. Le jour, cette colonne est un nuage vertical. La nuit, d'un côté, elle est constituée de feu pour éclairer les 12 tribus. De l'autre, c'est une nuée opaque. Exode 14, 20. La nuée, sa réalité, présence et gloire divine. La nuée était la garantie de la présence constante de Dieu au milieu des siens. C'est un miracle en mouvement qui se déplace pour conduire le peuple et lui révéler la volonté divine. Nombre 14, verset 14 et Exode 40, 36 à 37. Le peuple suivait la nuée sur l'ordre de l'Éternel. Son obéissance lui permettait d'être dans le plan divin et de connaître sa gloire. Ce prodige devenait un véritable mur de protection, comme on peut le lire en Exode 14, 20. La nuit, derrière le camp, elle fermait la porte. Un véritable mur de ténèbres pour l'ennemi. Revenons à Pierre, Jacques et Jean. Ils doivent se demander ce qui leur arrive. N'oublions pas ce que Jésus a dit au verset 27. Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Peut-être, se disent-ils, qu'ils ont été transportés au royaume de Dieu, d'autant plus qu'ils entendent la voix de Dieu. Peut-être se demandent-ils pourquoi eux, trois, bien que Pierre dise « Maître, il est bon que nous soyons ici » au verset 33. Peut-être se disent-ils « Ça y est, nous allons mourir puisque nous voyons le royaume de Dieu. » Et Moïse et Élie, que font-ils là? Moïse n'est-il pas mort et enseveli par Dieu, comme nous l'avons lu en Deutéronome 34? Moïse a été enterré par Dieu. Est-il ressuscité? Un moine dominicain dit à ce propos, au propos de Moïse et Élie. Moïse et Élie, on a souvent remarqué que ces deux hommes sont célèbres pour avoir bénéficié d'expériences proches de la transfiguration. Moïse, après avoir fréquenté Dieu, présentait un visage rayonnant, peut-on lire en Exode 34, versets 29 à 35. Tellement éclatant, précisera même Paul en 2 Corinthiens 7, que son entourage ne pouvait en soutenir l'éclat. Et puis Élie, qui fut emmené dans un char de feu, sans connaître la mort. Avant cela, il a vécu comme Moïse une étonnante rencontre avec Dieu à l'Horeb, un roi 19. Moïse et Élie, deux personnalités de lumière et de feu, se tiennent donc aujourd'hui auprès de Jésus. Deux piliers de l'Ancien Testament qui discutent avec Jésus durant son ministère terrestre. Et enfin, Dieu qui dit du milieu de la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Où sont passés Moïse et Élie? Ils avaient fini de discuter avec Jésus. Probablement, là c'est moi qui suppose, qu'il l'avait fortifié en vue de ce qui allait se passer à Jérusalem. N'oublions pas que Christ était tout dans son humanité pour accomplir l'ultime sacrifice de la croix. Philippiens 2, versets 6 à 8 nous le dit. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Quand Dieu, du milieu de la nuée, dit « Écoutez-le », Jésus est seul avec lui. Ce que dit Dieu là s'adresse à Pierre, Jacques et Jean. Il n'y a plus qu'eux et Jésus. Alors, outre la transfiguration, que pouvons-nous retenir de ce passage? En s'adressant à ses trois disciples, Dieu veut dire que, dorénavant, seul Christ, ou Christ seul, doit nous servir de modèle. Ce que Christ a dit tout au long des évangiles prend une autre dimension cette fois. C'est Dieu qui dit « Écoutez-le !» Tout au long des évangiles, Christ nous enseigne et nous donne des consignes. J'ai posé une question à nos deux vieux ménos. Le verset phare de Méno Simon se trouve dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Quel est-il? Le verset phare de Méno Simon se trouve dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Alors, parce qu'il est dans tous les Christ seuls, dans la couverture en plus.
Nul ne peut poser.
Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. Tu lis Christ seul, Piano et Lorraine, vous le lisez?
Je ne savais pas que c'était une citation de Méno Simon.
Ah, Méno Simon, c'est son verset phare.
Eh bien, toi, alors ça, je n'ai jamais fait la...
D'ailleurs, ce verset a donné le titre de votre mensuel préféré, de notre mensuel préféré, pour ceux qui sont abonnés, Christ seul. Tout au long des évangiles, Christ ne nous demande pas de renier les prophètes et tout l'Ancien Testament. On va prendre quelques exemples dans Matthieu. Matthieu 5, 21. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Vous avez appris qu'il a été, tu ne commettras point d'adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Il ne nous dit pas que cela n'est pas bon. Au contraire, il l'a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mais il passe à un niveau beaucoup plus haut en nous disant, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. »
Ni par
quand Dieu dans la nuée dit à Pierre, Jacques et Jean, écoutez-le, il n'a fait que confirmer ce que Christ nous dit en Jean 14, 1. Ne soyez pas inquiets, leur dit Jésus, ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez ? Et après aller vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ? Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Notre monde d'aujourd'hui, notre société individualiste, notre soif d'indépendance et de liberté, toutes ces illusions, entre guillemets, voudraient nous faire croire que nous pouvons tout maîtriser, que pour tous nos problèmes, l'homme trouvera une solution, qu'il n'a pas besoin de Dieu, et que nous pouvons avoir une parfaite assurance dans les capacités humaines pour nous sortir de tous les mauvais pas. Et que croire en Dieu n'est pas réaliste. Ce type de raisonnement ne vient pas de Dieu. C'est le prince de ce monde qui nous guide lorsque nous croyons à cela. C'est pourquoi nous, qui avons placé notre confiance en l'œuvre de Christ à la croix, nous devons nous rappeler que lui seul doit influencer notre comportement. Attention, je ne dis pas que tout est mauvais, qu'il faut rejeter tout ce que notre société nous propose. Je me garderai bien de vous tenir de tels propos. Il y a quelques décennies, le monde chrétien a beaucoup décrié les nouvelles technologies, par exemple. Regardez combien elles nous ont été utiles depuis une année, avec les cultes en ligne sur YouTube. Les réunions Zoom. Cette semaine, j'ai pu participer pour l'Église à deux réunions via ce moyen. Une dans le cadre du Copilor jeudi et une hier avec l'AG du CMMF. Sans parler durant le confinement, des cultes que nous avons pu voir dans d'autres églises. Les progrès de la médecine ne sont pas non plus à jeter. Et bien d'autres choses encore. Non, chers frères et sœurs, tout n'est pas mauvais, mais en toute chose, nous devons regarder à Christ avant de prendre une décision. C'est lui seul qui sait ce qui est bon ou pas pour nous. Laissons-le nous guider par son esprit. Paul nous dit en Romains 10, versets 9 et 10, « Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est par le cœur en effet que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. » Dans notre passage lu en introduction, Jésus se retrouva seul. Je vois là un passage de témoin. Le peuple israélite s'était jusqu'à présent appuyé sur la loi de Moïse et sur les prophètes. Avec la disparition de Moïse et Élie dans la nuée, je crois vraiment que Dieu nous dit maintenant que nous devons nous appuyer et chercher refuge qu'en Jésus-Christ. L'Ancien Testament est nécessaire. Il nous faut le connaître. Il est plein d'enseignements, ne serait-ce que l'amour infini de Dieu pour nous, sa patience. Et de plus, il nous explique la venue de Jésus et nous aide à comprendre le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, et depuis plus de 2000 ans, seul Christ nous est nécessaire pour accéder à la vie éternelle, comme nous le dit Paul en 1 Timothée 2:5. Car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme Jésus-Christ. Voici un petit top des versets qui nous rappellent, il y en a beaucoup plus, hein, vous pourrez rechercher et ajouter à la liste, un petit top qui nous rappelle que Christ seul est nécessaire. Matthieu 23, 10. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, le Messie. Romains 5, 17. Certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul à cause de ce seul être, mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de son œuvre salutaire vivront et régneront à cause du Christ. 1 Corinthiens 8:6. Il n'est pas moins vrai que pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, qui a créé toutes choses et pour qui nous vivons. Il n'y a également qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses existent et par qui nous vivons. Jean 14, 6. Jésus lui répondit : Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Voilà qui est on ne peut plus clair, n'est-ce pas ? Pour conclure, dans ce passage lu au commencement, nous ne retenons souvent que la transfiguration, qui est bien sûr importante. Mais il y a aussi un message pour nos trois témoins, Pierre, Jacques et Jean, et pour nous tous ici, en 2021, Christ seul, seul Christ. Amen.